Salut, bienvenue à Biomen. Aujourd'hui, on continue avec les finances. Comme on disait, on parlait de crédit la dernière fois, puis on va continuer avec la fin du début. On parlait de potentiellement, si on s'achetait une voiture, on parlait qu'on avait un 20 000 qu'on s'était fait offrir. Je vais encore être mon invité. On parlait du 20 000 qu'on s'était fait offrir avec le potentiel d'acheter une voiture. Puis l'effet aussi négatif de changer de voiture souvent, qui pouvait apporter des dépenses plus importantes qu'on aurait aimé. Fait que l'explication qui était donnée, c'est par exemple, si vous voulez acheter une voiture à 10 000 $ vous faites financer une partie, puis là, après ça, l'année d'après, vous voulez acheter une autre voiture, mais là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre ce qu'il vous reste à payer sur cette voiture-là, puis ils vont la transposer sur la nouvelle voiture. Mm-hmm. Puis, dans le monde du crédit, pour vous offrir un certain crédit, il y a deux choses qu'on regarde. Un, c'est votre score de crédit, donc à quel point vous êtes des bons payeurs. Puis la deuxième chose, c'est votre taux d'endettement. Donc, si vous avez, on utilise le terme cash flow, mais si par mois, vous avez un revenu de 2000 $ par exemple, eux autres, ils vont évaluer que ce qu'ils peuvent vous prêter, c'est 30% de la valeur de votre revenu. 30 à 40%. Donc, ça serait 1200. Non.
Ça serait 30% de combien tu dis?
2000.
De 2000.
600 $.
Ouais, genre.
Fait qu'ils seraient prêts à vous donner 600 $ par mois d'une valeur de prêt, par exemple. Ça veut dire que si vous avez une trop grosse dette, que ce soit avec votre voiture ou avec votre carte de crédit, ils ne vont pas vous prêter plus d'argent. Fait que c'est là où il faut faire attention parce qu'on ne connaît pas la machine, le monstre qui s'appelle le crédit. Puis c'est important de bien s'informer, de bien comprendre cette machine-là. Mm-hmm. Puis tu sais, comme qu'on disait, le 30%, ça marche aussi sur une carte de crédit. Fait qu'on, le côté ballon des voitures, on ne rentre pas trop là-dedans. Là. Ouais. Mais je vais te laisser continuer sur cet aspect-là du crédit.
Oui, ben c'est ça. Dans le fond, à ce niveau-là, c'est que eux, évidemment, les vendeurs de voitures sont très contents de voir que vous avez un beau crédit puis de vous dire qu'on peut aller jusqu'à là puis on peut s'acheter ta voiture, mais... pour vrai, c'est pas une bonne idée d'aller se payer un gros char. Pour vrai, vous êtes beaucoup mieux de vous acheter des actifs, des biens qui vous rapportent, qui pourraient vous rapporter de l'argent au lieu d'acheter des voitures qui est juste une dépense, une grosse dépense. Parce que c'est bien cool le rouler en grosse Mustang ou en Mazda Speed, mais BMW, mais au final, je veux dire, tu vois. On s'entend, la voiture, c'est pour se déplacer.
Exact.
C'est pour se rendre au travail, pour aller faire de l'argent, puis aller voir la famille, tout ça. Mais tu sais, je veux dire, la voiture que tu as payé 5 000 $ cash, là, ça va faire la job aussi. Ouais. Tu sais, en longtemps que tu prends quelque chose qui est en bon état, je veux dire, ça va durer tant que ça va durer, mais pour vrai, je trouve ça beaucoup plus simple de faire ça comme ça, de s'habituer à ne pas avoir de payant de voiture pour prendre l'habitude d'épargner à tous les mois. Que ce soit, on peut commencer par des montants plus petits, puis à fur et à mesure que ton revenu augmente, tu augmentes tes paiements, au moins de s'habituer d'épargner pour investir ensuite de ça. Mm-hmm. Puis à part de ça, ben justement, tu sais, moi là, j'ai encore des paiements de voiture, que j'ai acheté, ça fait un petit moment. Puis j'aimerais ça pouvoir tout lairer ma voiture pour m'habituer à ne pas avoir des paiements de voiture. Puis tu sais, prochaine voiture, je vais probablement la payer cash, puis that's it, là. Mais ma voiture, je vais la garder jusqu'à temps.
Ouais, le plus longtemps possible.
Le plus longtemps impossible, exactement.
Fait que, quand on parlait justement des crédits, comme on disait, tu sais, si vous vouliez initialement une voiture à 10 000 $, puis là, parce qu'on parle des crédits, puis là, au niveau du crédit, ils disent « Ah, on peut vous fournir une voiture de jusqu'à 32 000 $ Puis là, t'es comme « Oh wow, je pourrais pogner genre le char de l'année, blablabla. » C'est là où on essaie de vous expliquer l'importance de genre « C'est pas grave que tu peux louer pour 32 000 parce que c'est ton cap 32 000. » Fait que ça veut dire que si tu voulais faire un prêt de 20 000, si tu voulais faire n'importe quoi d'autre, ton 32 000, là, c'est juste ton cap. Fait que toi, tu avais déjà une voiture que tu voulais à 10 000 ou à 5 000, prends la voiture à 10 000 ou à 5 000, fais en sorte que tu payes le plus petit montant possible par mois si jamais tu as besoin de bâtir ton crédit. Parce que ça aussi, c'est important. Juste payer une voiture cash quand tu n'as pas de crédit, ce n'est pas une bonne idée.
Ben non, mais tu peux quand même le bâtir avec la carte de crédit, là.
Oui, c'est soit la carte de crédit, mais quelque chose qui va faire en sorte que tu peux bâtir ton crédit. Ça peut être...
Parce que la carte de crédit, ça peut être suffisant probablement pour bâtir le crédit. À ce niveau-là, je pourrais pas confirmer à 100% que c'est mieux d'avoir une voiture que d'une carte de crédit. Je pense que la carte de crédit, ça doit faire la job. Je pense que j'ai des amis qui, eux, ils ont pas nécessairement eu de... ils n'ont pas nécessairement acheté des voitures à paiement puis tout ça, puis ils ont quand même des bons crédits. C'est sûr que oui, ça peut servir pour bâtir son crédit. Puis comme tu dis, t'es mieux de payer peut-être une partie cash, d'avoir un petit...
rendre ça gérable. Exact. Facilement gérable.
Oui, c'est ça, exact. De tout le temps avoir un paiement aussi que tu vas être sûr que tu vas être capable de payer.
Exact.
Puis l'autre affaire qui arrive avec le paiement de voiture, là, c'est que ça, là, quand vous allez vouloir vous acheter une maison, ça vous nuit. Parce que justement, le ratio que Jean-Sébastien parlait, pour la voiture, vous, c'est 30%. À la banque, c'est différent les pourcentages. Mais mettons, le ratio total de dette que vous pouvez avoir sur votre revenu brut, c'est 35%, si je ne me trompe pas. Okay? 35%. Puis, fait que dans le fond, c'est qu'ils prennent ton revenu brut. Puis, dans le fond, toutes les dettes que tu es supposé avoir, c'est supposé être 35% de ton revenu. Ça veut dire que là, si déjà ta voiture, ça représente, mettons 20% de ton revenu brut, tu sais, j'exagère peut-être un peu, là, mais ça reste que là, il te reste pas beaucoup d'espace avoir...
Il te reste à peine un 15%. Là,
exact. T'as pas beaucoup de jeu pour t'acheter une maison. Fait que, ça fait pas de sens aussi d'avoir une maison, un paiement de char plus gros que ton paiement de maison. Là.
Fait que symboliquement, là, ce que ça représente, si on peut vous donner des petits exemples, des petits chiffres, là. Fait que mettons que le 20% qu'on parle, c'est 10 000$, OK? Fait que si, mettons, 10 000$ de ratio de dette, c'est ce que vous avez, ben on va regarder...
Non, mais ça, c'est par mois, là, le...
Le 10 000?
Non, le ratio.
Ah, le ratio.
Mettons, tu prends ton salaire brut.
Fait que, mettons, 10 000$. 1 000$, ça représenterait, mettons, 20% de ton salaire. Parce que tu travailles pas beaucoup, t'es aux études ou quoi que ce soit. Ça voudrait dire que... Si tu veux justement aller chercher autre chose, une maison ou un prêt, quelque chose comme ça, la seule chose que vous allez pouvoir aller chercher de différence, ça va être un 500$. C'est pas beaucoup. Fait que si tu voulais acheter, mettons, un condo ou un bungalow, une petite maison, puis tu avais un paiement de char, tu pourrais pas. Mais si tu n'avais pas de paiement de char, là, à ce moment-là, ce qu'on juge que tu serais capable de prendre par mois, ça serait comme un genre de 1 700. Mm-hmm. 1 700, c'est assez pour se payer un petit bungalow, peut-être une maison de ville, un petit quelque chose que vous pourriez déjà commencer à investir pour le futur avec votre propre demeure. C'est un exemple, mais c'est juste pour vous donner comment ça fonctionne au niveau du crédit. Pardon. Fait que ça rentre aussi dans le... Bon, fait qu'on est dans cette étape-là, pardon. Fait que les prêts et bourses aussi, ça rentre dans quelque chose qui touche au crédit parce que vous devez rembourser les prêts, les bourses, on vous les a donnés.
Ouais.
Fait que si tu es aux études, mettons, tu es rendu au cégep, tu es peut-être à l'université, tu cherches à aller chercher un prêt et bourse, puis qu'on te donne, on va y aller avec des chiffres faciles, là, un 4 000$. De prêts et bourses, on te donne 2 000$ de prêt puis 2 000$ de bourse.
Mm-hmm.
Mais ça veut dire que le 2 000$ de prêt, vous allez devoir le rembourser.
Ouais. Et il faut pas nécessairement se dire que. Quand je faisais ça. Tu sais, dans le fond, mettons, des fois, ils disent ça. Ils disent c'est 2 000$ de bourse, 2 000$ de prêt. Mais bémol là-dessus, par contre, moi, je travaillais aussi en même temps.
Ouais.
Probablement, je travaillais quand j'étais aux études. Puis, à la fin de tout ça, ils ont fait ils ont comme recalculé tout ça. Ils ont dit « Ah, mais là, toi, t'as trop travaillé, t'as comme trop fait d'argent. » Fait que là, finalement, on t'a dit qu'on allait te donner ça, mais finalement, c'est pas vrai. Ça va être, mettons, 1 000$ de bourse puis 3 000$ de prêt. Parce que j'ai trop fait d'argent quand j'étais allé aux études. Et quand même, j'ai quand même eu, genre, mettons, 15 000$ de dette étudiante, là. Tu sais, mais... C'est sûr. C'est sûr que si j'avais pas des paiements de char à faire pendant ce temps-là,
ça aurait été facile à gérer.
Exact, ça aurait été facile à gérer. Mais tu sais, quand t'es jeune, hein, tu te dis, ah, mais tu sais, c'est pas grave, c'est juste 200 par mois. Ou tu sais, ben c'est ça pareil. T'sais, 200 par mois pendant une couple d'années, ben c'est ça que ça fait. T'sais, j'aurais peut-être pas eu cette dette-là étudiante à payer.
Combien de temps qu'on a pour payer la dette étudiante?
La dette étudiante, si je me trompe pas, ben je pense que le standard c'est comme 15 ans. Peut-être que ça peut être un peu plus long ou ça peut être plus court.
C'est après tes études, right?
Ouais, la date exacte, je suis pas certain à 100% de mémoire, c'est comme un an ou deux après que tu as fini tes études, faut que tu rembourses. Fait que tu as comme environ comme 15 ans pour rembourser ça. Puis okay. Comme je te dis, les intérêts sont déductibles d'impôts. Ça veut dire que c'est comme un. C'est comme si tu payais pas genre à peu près 30% de ce montant-là. C'est comme un rabais de 30%, genre.
Puis l'autre affaire qui est intéressante aussi, c'est que le prêt qu'on a du prêt bourse, c'est le taux d'intérêt il est très bas. Right?
Ouais, c'est sûr. Dans le fond, ouais, c'est ça. Pour le taux d'intérêt pour le prêt étudiant, il est très bas, en effet. Là, je sais pas si
il
ça.
Il commence une fois que tu as terminé tes études.
Ouais, c'est ça. Quand tu es aux études, c'est comme c'est zéro. Il n'y a pas d'intérêt qui se cumule là-dessus. Faudrait que je vérifie c'est combien, là. Parce mais que... me semble que moi, quand j'avais fini les études, c'était.
7-8%.
Ah non, c'était vraiment bas là. C'était
3%.
Ouais, autour de 3 là, je dirais. Peut-être okay. 2-3% là.
Fait que ça veut dire que mettons qu'on vous donne le prêt bourse, vous faites l'application, on vous donne le prêt bourse, mais vous n'en avez pas vraiment de besoin. C'est là où que toutes les conversations de placement qu'on a, ça peut être intéressant.
Ouais, exact.
Si t'as déjà fait ton budget. Puis, tu veux sauver de l'argent ou tu sais que tu fais plus que ton 32 000 $ puis tu veux rester en dessous dans cette braquette financière-là, mais que tu as en plus un prêt bourse assez intéressant, ben, tu pourrais prendre une partie de cet argent-là puis la mettre dans tes REER pour diminuer ton revenu imposable, puis payer moins de taxes. Fait qu'il y a des affaires, il y a des petits moves comme ça qui peuvent être intéressants à faire. Encore une fois, vous allez rencontrer un conseiller financier, vous allez rencontrer une personne qui peut vous éduquer à ce sujet-là un peu plus. Mais ça peut être intéressant, justement. Comme on a la sœur d'un de nos très bons amis qui, elle, avec ses prêts et bourses, les a mis en investissement. Et après ses études, après ce 7-8 ans d'études, a décidé de prendre cet argent-là qu'elle avait placé avec intérêt. Ben, elle aurait décidé d'acheter une maison avec ça. C'est quand même quelque chose d'intéressant à faire. Là.
Ouais, c'est sûr, c'est bon parce que, tu sais, c'est au lieu de, tu sais, mettons, tes économies ou tes REER, ben, dans le fond, elle a carrément fait un effet de levier, là. Dans le fond, c'est prendre de l'argent emprunté pour acheter des actifs. Fait que ouais. Ça, c'est super bon. Tu sais, c'est financé par l'État, on aime ça. Fait que c'est vraiment un bon move, je trouve. Puis, tu sais, en fond, elle a simplement remboursé ce montant-là sur 15 ans avec un taux d'intérêt très bas.
Exact.
Fait que c'était vraiment un bon move. Parce qu'en fait, elle, c'est qu'elle travaillait en même temps à l'épicerie.
Ouais.
Fait que ça a été suffisant pour elle. Son revenu étudiant, ça a été suffisant pour payer ses études. Mm-hmm. Fait que son prêt bourse, ça n'a pas eu de besoin. Mais c'était légitime de l'avoir demandé au cas où. Parce que, mettons, ses parents n'avaient pas un gros revenu nécessairement. Mais, tu sais, elle a été autonome là avec ça, puis ça a été super, ça a été vraiment un bon move, puis je le recommande aux jeunes de faire ça aussi, là, tu sais, si vous êtes capable genre, de travailler en même temps que vos études, de ramasser de l'argent, puis de pas toucher à ce montant-là, ça peut être un bon move. Mais comme que je vous dis, justement, de s'embarquer dans des paiements de voitures, tout ça, quand on est aux études, pas une bonne idée.
Cool. Fait que là, essentiellement, l'autre chose, on a parlé des prêts bourses, les REER, les CELI, le crédit, le cash flow / budget, puis économiser. On peut en parler un peu plus en détail. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, mais... je pense qu'on a pas mal.
C'est quoi ta question?
Je sais pas c'est quoi ma question. Ben, non, je pense qu'on a pas mal fait le tour côté finance des affaires importantes. Il y a des petites... OK, bon, pour les futurs investisseurs, le monde qui veut investir là, dans les l'argent numérique, puis les prêts, les bourses, ces choses-là, On a parlé tantôt des gens qui avaient, par exemple, investi, tout mis leurs œufs dans le même panier.
Ouais.
Au niveau de. Parce qu'il y a eu des crashs boursiers, vous êtes plus jeune, vous êtes peut-être moins jeune. Mais on se rappelle des crashs boursiers 2008, si je ne m'abuse, qui a été quand même assez intéressant. Puis là, on s'enligne potentiellement pour une deuxième récession pendant notre lifetime. Là. Il y en a eu d'autres, des récessions, mais.
Ouais, il y en a eu plusieurs. Il y en a souvent. Des fois, ça frappe plus fort que d'autres. Là, on s'enligne peut-être pour une, tu sais, selon les économistes, tout ça, on s'enligne pour une récession douce peut-être qu'ils diraient. Ça, tu sais, dans le fond, c'est parce que le marché de l'emploi, il est fort quand même, fait que on pense qu'elle va pas tellement impacter tant que ça les travailleurs. Ben, au niveau du travail, de pas, on va pas manquer, les gens vont pas perdre leur job.
Exact.
Mais par contre, c'est sûr, le niveau.
Les
entreprises, ça va être plus difficile, ou sinon, au niveau de l'hypothèque, il y a des gens qui ont ça. C'est important d'aller voir parce que des fois, ben en fait, c'est que votre paiement, s'il est variable, ça dépend.
Attends, mais là, c'est parce que tu parles de quelque chose, mais tu n'as pas mentionné.
Le paiement hypothécaire.
OK.
Dans le fond, s'il est variable, mettons, ça dépend de l'institution. Là, moi, je suis avec First National pour mon paiement hypothécaire, puis il augmente. OK? À chaque fois qu'il y a une hausse de taux, ça augmente. Il y a certaines institutions comme Desjardins, par contre, ton paiement, il ne va pas augmenter. C'est comme le ratio de capital puis intérêt que tu payes qui va changer.
Déterminé.
Qui va changer. Mais ton paiement va pas changer. C'est ça qui fait que quand c'est variable, ça va changer. Mais en fait, c'est ce qui est important d'aller vérifier, c'est de voir est-ce qu'on paye encore assez de capital sur notre paiement qui n'a pas changé. Mais vu que le taux directeur a vraiment beaucoup augmenté, il y a des gens que j'ai vu à la caisse que eux, leur paiement n'était même pas suffisant pour payer les intérêts. Donc, ça veut dire que leur solde hypothécaire augmentait à chaque mois. Donc, ça, c'est vraiment problématique. Là. Fait que, tu sais, il y avait quelqu'un, mettons, son paiement hypothécaire, c'était déjà peut-être, mettons 2200 par mois, OK? Puis là, pour que ça reste dans le même terme, là, mettons, de 25 ans, il fallait qu'il monte à 3200 ou 3500. Ça fait pas de sens, là. Pour un condo, je suis comme, oh my God! Tu sais, fait que je me dis qu'il y a des gens qui vont peut-être mettre des pancartes à vendre, genre reprise de finance ou quelque chose, parce que... Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est important d'aller vérifier ça. Si on veut s'acheter une maison, tout ça, ou si vous êtes déjà propriétaire, ça... Parce que là, en ce moment, si on garde le même paiement, ben là, les gens, ils remboursent leur maison sur genre 40 ans.
Mm.
Puis là, ben ça va te causer des problèmes plus tard, là. Parce que là, si t'es étalé sur 40 ans, ton prochain taux va être plus élevé. Parce que là, la banque, ils pensent que c'était un risque supplémentaire pour eux. Puis l'autre affaire qui arrive, c'est que quand tu arrives, quand tu signes chez le notaire, t'es comme garanti pour 30 ans environ, ton montant, là, si je pourrais dire. Mais là, quand tu arrives après ça, puis là, faut que tu refinances, mais là, t'as dépassé ta période de 30 ans, faut que tu repasses chez le notaire pour comme...
Un autre dépense.
Un autre... Moi, il faut que tu repasses chez le notaire, dépenser un autre 1000$, là, mais... Puis dans le fond, c'est comme ils vont encore garantir ton montant. Là.
Moi, ce que je regarde, ce que je réfléchis, c'est pas nécessairement d'acheter une maison, mais d'investir dans l'immobilier. Vraiment plus un investissement immobilier que d'être propriétaire, parce qu'à la fin de la journée, tu vas quand même faire de l'argent. Puis c'est beaucoup plus facile à gérer d'être... comment dire... de faire partie, mettons, d'un groupe immobilier où ce que tu vas avoir une garantie de revenu quasiment ou une garantie d'augmentation parce que c'est un bien pas un bien imposable, mais c'est un bien qui fait de l'argent, un actif.
Ouais.
Puis, ça fait en sorte que tu as une moins grosse charge aussi financière. Tu payes ton loyer qui, normalement, est... ça vient un peu moins cher, potentiellement, payer un loyer que d'avoir ta propre demeure, à moins que tu aies vraiment capable d'avoir un super le bon prix sur ta demeure. Mm-hmm. Mais en ce moment, avec la façon que le marché est, puis aussi de ce que je peux voir personnellement, dans les 10 à 30 prochaines années, ça grimpe tellement rapidement que acheter quelque chose, si toi-même tu peux pas le payer mensuellement, c'est pas nécessairement la meilleure idée. Fait que si, mettons, tu peux dépenser moins cher à louer quelque chose, puis que tu as de l'argent de côté, puis tu peux le placer avec des compagnies qui ont des immeubles ou tu vas avoir ou tu achètes des parts de ces compagnies-là,
mm-hmm.
c'est sûr que tu vas faire de l'argent. Là. Ces compagnies-là, ils vont continuellement acheter, construire, acheter, construire, acheter, construire. Ouais. Fait que même si tu as une petite part de ce gâteau-là, tu as une part du gâteau. Sinon, c'est sûr que l'autre option que je pensais, c'était d'être capable de soi-même investir dans des condos immobiliers, acheter des duplex, des triplex, sixplex, simplex, et toutes ces affaires-là. Mm-hmm. Mais l'avantage justement qu'on a, c'est que tu as quelqu'un d'autre qui t'aide à payer ton...
Ouais.
Comment tu appelles ça?
Ton hypothèque?
Ton hypothèque, exactement. Ouais. Fait que en ce moment, c'est pas mal les deux, je pense, trucs les plus avantageux. Malheureusement, c'est plus travailler une job à temps plein, salaire minimum, puis t'acheter une maison. Si t'es seul, c'est...
T'oublies ça. Là.
C'est pas possible.
Non.
C'est juste pas possible.
Non, c'est sûr. Surtout dans le marché actuel, c'est difficile, là, justement, je regarde pour une maison, justement, puis c'est vraiment difficile. Là. On s'entend, mettons, avant la COVID, mettons une belle maison, deux étages, mettons sur la rive sud de Montréal, c'était environ 300, 325, c'était facile d'avoir ça.
Ouais.
C'était pas too much, puis la star, 400 000, c'est des boîtes. Genre, faut que tu mettes comme 50, 100 000 piastres dedans pour que ça aille de l'allure, là.
Ouais.
Fait que c'est pas évident. C'est quand tu te dis, moi, ma valeur intrinsèque, c'est pas ça. Là. C'est pas, ça vaut pas 500 000 cette maison-là. Ça valait 300 000 il y a 3 ans. Là. Ça n'a pas de sens, mais
ça a grimpé incroyablement.
C'est rendu ça. Puis le marché va probablement pas se recorriger là, pour que ça en devienne comme avant. Ça va comme.
Je pense que ça va stagner plus longtemps.
Un peu, là, ouais, c'est ça.
Mais ça va pas diminuer. Là.
Ouais, mais tu sais, éventuellement, mais c'est comme si l'immobilier, mettons que tu dis que ça augmente d'environ, 3,5-4% par année, mais tu sais, les salaires, ça augmente peut-être juste de 2% par année.
Ouais.
Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis dans, je sais pas, 25-30 ans, quand mettons,
potentiel.
Tes enfants vont vouloir s'acheter quelque chose, ben, mané, ça va être trop cher, là, dans le sens qu'on n'aura pas le choix, peut-être que les hypothèques, ça soit sur 40 ans comme ailleurs, tu sais, je sais pas si c'est
dans
comme
le monde,
ça. Ouais, tu sais, peut-être en Europe, tu sais, où que les gens, ils vont comme déléguer, ils vont donner leur hypothèque à leurs enfants, puis tu finis jamais de payer, tu sais, c'est comme.
C'est important, je suis en train d'en parler des finances, parce que, tu sais, moi, j'en parle aussi avec les membres de ma famille, puis mes proches, puis des amis, où ce que. La façon que je vois ça. Plus qu'il y a de monde, ben, on est de plus en plus de personnes, il y a de moins en moins de territoires, de places accessibles pour construire. Oui, il y a des affaires, possibilités avec de vivre sur l'eau, nature renouvelable, de construire avec du champ. Il y a plein de belles choses là, qui peuvent s'en venir là, pour remplacer les parcs naturels et les régions qui vont être utilisées pour la construction de nouvelles maisons, mais ça reste qu'il y a une quantité limitée de places.
Ouais.
Qui a un propriétaire ou non. Puis, tu peux, dans le fond, tu as deux choix. Tu peux soit rentrer dans la vague des propriétaires, puis même si tu ne. Même si tu n'as pas 100% de la propriété, mais tu as une part de propriété, ou tu fais partie d'une corporation comme shareholder, comme on appelle ça en français,
actionnaire,
ben tu te garantis une place parmi les riches, si on veut. Dans le sens que, tu sais, si tu regardes dans le temps médiéval, là, j'ai quelqu'un d'autre qui en parlait, que je trouvais ça vraiment intéressant.
Les landlords.
Ouais, exactement. Tu te faisais offrir par le roi.
Les seigneurs.
Là, les seigneurs, une seigneurie.
Ouais.
Fait que là, t'avais ça, puis tout le monde faisait de l'argent sur ta terre, t'avais une partie de revenus, puis le roi, il taxait le reste. Puis eux autres, bien sûr, ils avaient leurs propres biens qu'ils étaient capables d'utiliser pour revendre, troquer, toutes ces affaires-là.
Ouais.
Mais là, on arrive à un point où ce que les seigneuries, là, ben, le territoire, il n'y en aura plus. Puis toi, en ce moment, tu as l'opportunité d'acheter une part de la seigneurie, entre guillemets, si on veut. Fait que tu vas soit pouvoir être un paysan qui vit sa terre puis payer des taxes toute ta vie, ou être propriétaire de la seigneurie, ou avec un groupe, un organisme,
avoir une part,
puis faire partie maintenant d'une classe supérieur qui possède un certain niveau de pouvoir sur le terrain, puis qui va continuellement avoir une rentabilité. Puis, si on attend trop longtemps, cette opportunité-là va juste disparaître. Parce qu'à un moment donné, ça sera plus achetable, il n'y aura plus de place, puis même acheter des actions, des parts de marché, ça va être plus achetable non plus. Parce que plus qu'on attend, plus que le prix de tout augmente, même si la valeur de l'argent augmente.
Exact. C'est pour ça que ça me fait penser justement. Des fois, les gens se demandent, ils essaient de timer le marché. Ah, c'est quand est-ce c'est mieux d'acheter, de vendre, tout ça.
Ouais.
Le meilleur temps pour acheter, là, c'est le plus tôt possible.
C'est quand tu peux.
Puis le meilleur temps pour vendre, là, ben, c'est à ta retraite. C'est aussi simple que ça. Ben, mettons, pour la bourse, là, c'est vraiment. Dans le sens que c'est vraiment en fonction du temps. Faut vraiment que tu te laisses du temps. Tu sais, j'ai un graphique là, que j'aime beaucoup montrer à mes clients là, qui est la charte Andex. Okay? Ça, en fait, c'est que ça montre, par exemple, si tu avais investi un 100$ en 1950, jusqu'à 2022. Okay? On s'entend, c'est 72 ans. Okay? Mais 100$ quand tu investis. Puis tu ne touches pas, là, tu ne mets pas d'autre argent. Okay, ton 100$ en 72 ans, ben, dépendamment dans quoi tu l'investis, ça peut valoir. Je ne me rappelle pas c'était comment exactement le montant, mais c'était comme. Ça peut valoir des millions. Là. C'était comme. Dépendamment dans quoi tu investissais, c'était comme 300, 500 000, 800 000, 1 million. Mais évidemment, c'est juste le temps. Le petit 100$ passé à travers tout ce temps-là, puis. Tu sais, quand tu vas chercher des rendements de 10, 12, 13%, ça, c'est intense, là. Tu peux aller faire des millions de dollars avec un 100$, tu sais.
J'ai entendu parler d'un certificat de placement.
Ouais.
C'est quoi ça?
Un certificat de placement garanti?
Ouais.
Ben, dans le fond, ça dépend. Il y en a certains qui sont liés au marché. Puis il y en a que c'est vraiment juste, dans le fond, c'est que c'est de l'épargne à terme. Là. Dans le fond, c'est que tu sais que ton capital est garanti. Fait que si tu investis, mettons, un 2000$, ça c'est garanti. Puis souvent, le taux d'intérêt aussi va être garanti pour ça. Fait que tu sais que, mettons, exemple, tu le places pour 3 ans. Tu sais que dans 3 ans, tu vas avoir tel montant. Tu sais exactement qu'est-ce que tu vas avoir, mais souvent, c'est des taux d'intérêt assez peu élevés.
Mm.
Là, par contre, ces temps-ci, avec les. Avec les taux directeurs qui augmentent, les CPG ou les placements garantis liés au marché, ils offrent des bons taux. On a même des promos là, chez Desjardins qui sont très avantageux à ce niveau-là. T'sais, des fois, tu peux aller chercher du 4% dans des placements garantis, c'est quand même assez bon.
La banque, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle garantit qu'elle va donner minimum ça parce qu'elle s'arrange pour faire plus et que la balance, elle te paye ce que toi, tu as réussi à les aider à investir, elle va te payer ce qu'elle doit, mais la différence que les autres ont réussi à faire comme profit, c'est leur profit.
Ben, c'est parce qu'en fait, la banque, comment ça fonctionne, mettons par exemple que c'est ça, toi, si tu dis « Ok, je veux investir dans un CPG, un placement garanti, que tu fais du 4%. » Fait que la banque te paye 4%, mais elle prend cet argent-là puis elle le prête à des gens qui ont des hypothèques. Mais que là, c'est rendu 5-6 %.
Ouais.
Elle garde la différence, elle garde de 2 % mettons, de différence entre les deux. C'est comme ça qu'ils font leur argent, les banques. Fait que, c'est vraiment. C'est sûr. Mais par contre, les trucs, mettons, comme à la bourse puis tout ça, quand tu places dans des fonds communs, par exemple, ben eux, là, en fait, ils font leur argent avec les frais de gestion. Mais c'est vraiment pour payer les gestionnaires. C'est pas tant. Ils gardent pas vraiment de cut avec ça. C'est plus comme ils offrent un service. Plus que faire de l'argent avec ça. Là.
OK. Third party service.
Ouais.
Fait que ça conclut les segments finances. Si jamais on a d'autres choses à discuter avec vous autres, vous avez des questions, faites-nous signe. Si vous voulez savoir aussi, pour être mis en contact aussi avec un banquier ou une personne qui peut vous aider à planifier certaines choses, tu es planificateur financier, right?
Non, je ne suis pas encore planificateur financier. Là. Je vais faire mon titre de planificateur financier, mais je suis conseiller financier.
Conseiller financier,
ouais.
Pardon. Fait qu'on pourrait potentiellement vous mettre en contact, puis on pourrait regarder justement avec vous c'est quoi qui est le plus important pour vous. Est-ce que c'est au niveau patrimonial? Est-ce que c'est au niveau, je sais pas, vous voulez vraiment faire de l'argent? Vous voulez investir pour la famille, le futur de votre famille? Vous voulez investir dans l'hypothèque? C'est des choses que vous allez pouvoir regarder avec la banque. Encore une fois, merci. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis, bonne journée, ma gang de vous.